Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bienvenue à votre émission hebdomadaire, le Forum Espace Femmes. Vous nous suivez à travers un réseau de 52 radios partenaires partout au Niger. Les normes et les pratiques culturelles ont confiné les hommes et les femmes dans leurs rôles respectifs selon la division sexuelle du travail. Ainsi, exercer des tâches domestiques est considéré comme un devoir pour les femmes, mais une transgression des normes sociales pour les hommes. Les exigences et les conditions professionnelles rendent difficile la conciliation travail-famille pour les femmes pendant ce mois béni de Ramadan. Pendant un mois, les femmes pratiquantes vont devoir concilier emploi, vie de foyer et foi, ce qui peut être très fatigant. Comment les femmes peuvent concilier vie de famille et vie professionnelle pendant le Ramadan, c'est le thème de notre débat d'aujourd'hui. Quel est le rôle de la femme dans la maison? Quelle est la place de la femme dans le monde du travail? Les défis et les stratégies mises en œuvre par les femmes dans les conciliations travail-famille? Comment les femmes peuvent concilier vie professionnelle et vie famille? À ces questions, nous allons tenter de répondre en compagnie de Oustaz Mahamadou Mustapha. Il est prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger et de Mme Salamatou Magaji, femme journaliste. Je suis Rafika Taher à la modération. Nous allons tout d'abord commencer avec vous, Mme Salamatou. Quel est le rôle de la femme dans la maison?
Et merci beaucoup, le studio Kalangu, de m'avoir donné l'opportunité pour pouvoir m'exprimer en tant que femme, travailleuse aussi et mère de famille. Et le rôle de la femme est très très important dans le foyer, parce que sans la femme, il n'y a pas de foyer. Donc les femmes, nous sommes très importantes dans la vie conjugale et aussi dans l'éducation de nos enfants et dans le plan professionnel aussi.
D'accord, Madame Salamatou. Oustaz, religieusement parlant, quelle est la place de la femme dans la maison?
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah, khatim al-anbiya wa imam al-mursalin. Religieusement parlant, c'est-à-dire islamiquement parlant, c'est que la femme, c'est une pièce maîtresse de le foyer, dès la base, c'est-à-dire dès sa déclaration en mariage. C'est vers elle qu'on va. La femme là, tellement reine et tellement grande, on se courbe pour demander sa main pour le mariage. Alors, cela a été dit dans un verset du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a magnifié la femme. La femme au foyer, la femme mariée. Il a dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ja'ala baynakum mawaddatan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma wa fi dhalika ayatun liqaumin yatafakkarun. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parmi ces signes, lui, Allah, il a créé de vous et pour vous des épouses. Pas des femmes, mais des épouses pour que vous viviez avec elles en tranquillité, sans erreur, sans qu'elle manque quoi que ce soit, sans qu'elle soit blessée de vous, sans qu'elle soit brimée, n'est-ce pas? Pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Une femme, c'est comme une bouteille. Il faut faire tout pour qu'elle ne tombe pas. Alors, vous voyez bien les services que l'islam a réservé pour la femme. Dans ce verset, Allah a fini par dire qu'il a mis entre vous les liens de l'amour, de pitié et de tendresse. De tendresse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment donner l'affection les uns aux autres. Surtout la femme, il faut donner l'affection à la maison elle-même, au foyer lui-même, à ton mari lui-même. Maintenant, c'est ça qui fait la qualité des pièces maîtresses de la femme dans le foyer.
D'accord. Et que pense l'islam aussi du travail de la femme en dehors de la maison?
Vous savez, l'islam, lui, de la créature, c'est que la femme et les enfants sont des personnes à charge. Pour l'islam, la femme ne devait même pas un peu ressassière pour aller chercher. On devait tout lui offrir. Mais ça n'est pas dit que l'islam a empêché à la femme d'étudier ou d'apprendre. Parce que Aïcha radiallahu anha, qui est la femme choyée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a appris, elle a étudié la sociologie, elle a étudié les choses, elle a appris plus de hadiths que tous les autres rapporteurs de hadiths. jeune qu'elle est. Donc, le prophète l'a aidé pour étudier, pour apprendre, et elle a enseigné. C'est-à-dire, elle a travaillé, elle a enseigné les femmes, les hommes, elle a enseigné les femmes comment avoir la qualité, comment faire les choses socialement, comment. Elle a une école, l'école de Aïcha, donc les gens viennent apprendre. Donc, le travail de la femme est bien vu en islam. C'est normal, parce que la femme n'est pas confinée et dans le seul rôle d'être serviteuse dans le foyer seulement. Non, non. L'islam lui a donné la possibilité de travailler, effectivement. De travailler, le travail bénéfique. De donner ce que Allah lui a donné comme savoir. N'est-ce pas? Mm-hmm. Vous voyez bien que madame, l'islam a libéré la femme.
Oui, oustaz. Madame Salamatou, vous êtes journaliste. Donc, votre journée de travail se déroule de quand à quand?
Ma journée se déroule de 8h à 18h30.
À 18h30. Oui. Et pendant ce mois de Ramadan, comment est-ce que vous vous y prenez pour la préparation de l'iftar?
Oui, heureusement que pour ces mois bénis du Ramadan, on nous a privilégiés. Donc, on fait de 8h à 15h. Maintenant, comme ils nous ont privilégiés, ils ont dit donc maintenant de rentrer. On fait l'enregistrement à partir de 15h, 15h30. Et après, on quitte le serveur pour rentrer à la maison pour pouvoir s'occuper des tâches ménagères au niveau de la maison.
Donc, comment les choses se passent pour vous? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir ou bien il y a toujours des lacunes?
Bon, là, les lacunes ne manquent pas parce qu'il faut voir le fait de quitter très tôt le matin et sa maison pour pouvoir venir au service. Après le service, on rentre tard. Donc, aller faire les tâches ménagères, vraiment, c'est pas facile.
D'accord.
Vraiment, c'est pas facile. C'est un peu délicat, mais vraiment, c'est pas facile.
Qu'est-ce qui est difficile?
Bon, ce qui est difficile, c'est que, tu sais, des fois, si tu as peut-être des enfants qui t'aident à faire les tâches, il y a d'autres qui n'ont pas des choses de bonnes ou bien des enfants qui peuvent les aider à faire les tâches ménagères. Donc, c'est pas facile. Tu vas voir une femme à la descente, il faut qu'elle fasse. Et il faut qu'elle passe vers le marché, chercher les condiments à préparer et revenir à la maison, s'occuper à préparer et 2 à 3 repas. Comme tu sais, nous sommes dans le mois béni de Ramadan, c'est pas facile. Mm-hmm. C'est pas facile.
D'accord. Oui. Pour entamer la deuxième partie de notre débat, je vous propose de suivre quelques témoignages de la population sur le sujet.
Les activités de la femme musulmane pendant la période de jeûne sont vraiment énormes. Vous allez voir la femme, si elle est fonctionnaire, c'est à elle d'aller au service. Et de retour au service à la maison encore, elle s'attelle aussi au ménage. Et vous voyez combien de fois c'est pas facile de concilier ces deux activités. Surtout au moment où vous ne prenez même pas de l'eau. Donc vraiment c'est une période difficile pour les femmes. Les femmes musulmanes, la conciliation des activités professionnelles et des activités conjugales, si c'est pas vraiment la fille, c'est pas que la femme est crainte, ce n'est pas facile à supporter. Donc, vraiment, elle est à saluer la femme musulmane pendant la période de jeûne.
Le mois de Ramadan est un mois trop surchargé pour les femmes en général et en particulier pour les femmes travailleuses, car ce n'est pas du tout facile. Aller au travail, descendre à 16h, voire même 17h pour certaines, revenir à la maison, s'occuper de certaines tâches ménagères, surtout en cette période de chaleur. Même si on a une bonne ou bien des enfants qui peuvent vous aider, on ne doit pas tout laisser entre les mains de la bonne ou bien des enfants. Donc, c'est à la femme de s'occuper de son foyer, de son mari. Elle ne doit pas laisser la bonne ou bien les enfants le faire. C'est son devoir. Donc, je salue ces femmes travailleuses qui, malgré leur travail, arrivent à s'occuper convenablement de leur foyer. Qu'Allah les bénisse et leur accorde la meilleure des récompenses.
C'est elle qui s'occupe des préparations de ce qu'on doit manger dans la maison. Donc, je peux dire que vraiment, ça, c'est un fardeau qui est chargé sur la femme. Lorsque aucun garçon, même aucun homme marié, tu vas trouver aider sa femme dans le service du foyer.
La femme travailleuse et le Ramadan, quel regard faites-vous sur la manière dont elle gère?
Elle doit faire face à des pressions vraiment énormes, tant au niveau de son travail que dans son foyer. Et c'est plutôt un regard admiratif que l'on doit apporter à cette femme qui met tout en œuvre pour le bien-être de sa famille. En fait, tout est une question d'organisation. Lorsque la personne est bien organisée, elle peut se débarrasser de tous ses petits. De nos jours, la charité de la vie impose à la femme de travailler. Elle doit savoir désormais concilier sa vie active et celle de son foyer. Bon, pendant le mois de béni du Ramadan, ce n'est pas une mince affaire, se réveiller aux aurores, s'occuper de ses enfants, les abriter pour qu'ils puissent aller à l'école, être elle-même prête pour être ponctuelle sur son lieu de travail. À la descente, celle-ci doit encore préparer le futur, donc la fameuse rupture pour sa petite famille, veiller au grain et veiller à ce que tout le monde soit servi, que son mari soit dans de bonnes conditions gastronomiques, car elle sait que la réussite ou l'échec de ce jeune dépend d'elle. La femme d'aujourd'hui a cette formidable capacité à s'adapter aux exigences de la vie actuelle. Le mois du Ramadan est une fois de plus un moyen pour elle de démontrer qu'elle est tout à fait capable de concilier ces deux vies, sa vie active et celle de son fils.
Le Ramadan, comme on l'a dit, est synonyme de corvée intense, surtout pour la femme musulmane, notamment les femmes travailleuses. Et si je dis les femmes travailleuses, elles se situent à deux niveaux. Il y a la femme fonctionnaire de l'État ou fonctionnaire entrepreneur. Il y a la femme travailleuse domestique. Quelles qu'en soient ces catégories de femmes, vraiment, avec le Ramadan, ce n'est pas facile pour elles. Ce n'est pas facile. La femme travailleuse comprend les fonctionnaires, notamment une enseignante. Après la descente de son service ou de l'école, elle doit aussi s'occuper des tâches domestiques qu'elle se plaise bien sûr à exécuter. Quel regard je fais de ça? C'est qu'elle gaspille trop leur temps, surtout dans les préparatifs pour les ruptures de jeûne, notamment la cuisine. La femme passe trop de temps à la cuisine. Et elle gère bien, en tout cas, à mon avis, elle gère bien leur temps, parce que comme je l'ai dit plus haut, elle se plaise à le faire. Et quand tu te plais à exécuter une tâche, tu sauras trouver le temps nécessaire pour chaque activité. Et moi, je pense qu'elle puisse être cette force du fait de la récompense divine qu'il y a à réserver à ce que fait ces femmes, donc, notamment dans notre religion, surtout ce mois de Ramadan. Tout celui qui arrive à satisfaire son prochain, en tout cas, il aura une double récompense. En fait, j'ai dit que le quotidien de ces femmes-là n'est pas du tout le bon. Mais bon, comme elles se plaisent à le faire, elles peuvent s'en sortir quand même.
Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ces témoignages?
Oui, bon, remarque que je devrais faire effectivement, les uns et les autres qui ont intervenu ont mis en exergue un certain nombre de sacrifices naturels et avec plein de joie au cœur que les femmes, malgré les tâches, effectivement, manifestent, n'est-ce pas, pour s'acquitter de son devoir, parce que c'est des devoirs ici. Et il va de soi à ce qu'effectivement, il faut trouver une technique, une manière, la bonne, qui va satisfaire de tous côtés. Parce que ici, c'est un devoir, ici, c'est un devoir. Donc, comment ménager les deux devoirs? Donc, c'est pas facile, comme ils ont dit. Mais moi, je trouve qu'effectivement, elle devrait être regardant pour ce qui est de son foyer. La femme devrait, ses services-là ou bien ses sacrifices-là devraient être bien vus par le mari. C'est-à-dire que le mari devrait développer une technique pour lui alléger cela. Même sans jeûne de Ramadan, on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons ont demandé à Aïcha, pardon, sa femme, à l'une de ses femmes de toute façon, dit, mais quand le prophète quitte le majlis, là où on se rencontre, la mosquée, il entre. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur pour que nous aussi nous limitons et avoir une valeur ajoutée des bienfaits de ses gestes et comportements? Mais comme tous les autres hommes, il m'appuie dans les travaux domestiques. Quand il voit que, par exemple, je suis en cuisine et qu'il y a la fumée, les trucs qui m'aident à allumer les feux, à approcher telle tasse, à laver telle chose. En tout cas, il fait la moitié du travail avec moi. Donc, vous voyez, ça veut dire que venir en appui, en assistance à cette femme-là pendant, effectivement, qu'elle cherche à s'acquitter de ses devoirs-là, notamment pendant le carême, mais c'est même un acte qu'elle tient. Tout homme devrait, dans la mesure du possible, les faire. Il y a plusieurs manières de les faire. Il n'est pas dit qu'il faut nécessairement que tu sois dans la cuisine avec elle ou à côté d'elle. Non. Il y a des gestes que vous devrez, que les maris devraient faire pour alléger cela. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais je reviens à dire, mais en guise d'encouragement à ces femmes-là, d'après tout ce que les uns et les autres ont dit, n'est-ce pas, qu'elles sachent que vraiment c'est un acte aussi qu'elle est en train de faire. Donc, elle est en train d'amasser une valeur ajoutée de ce qu'elle fait comme vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de leur foi. Donc, par rapport à ça, elle devrait être effectivement fière et chercher à ne pas se plaindre, de dire aussi là où elle a besoin, effectivement, qu'on lui vienne en assistance. C'est très important. Maintenant, pour ce qui est de son travail, je crois qu'il y a quelque part la volonté du mari. Parce qu'une femme mariée n'est pas totalement libre de faire le travail comme elle le consent ou bien comme elle va sans associer son mari. Non, ce n'est pas bon. Et en ce moment-là, il y a un vice, n'est-ce pas, donc de confiance et de soumission inter-époux. Donc, elle devrait effectivement trouver un moyen effectivement de demander ces gestes d'assouplissement, ces gestes de facilitation que l'homme devrait faire, et même au niveau du travail. Donc, elle devrait trouver un moyen vraiment de s'organiser, parce que l'homme ne peut pas savoir c'est quoi le programme de son travail, mais il peut connaître le programme de son foyer. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas s'ingérer, dire que non, tu n'as pas à dépasser tel temps, ou bien tu n'as pas. Non, c'est à elle de voir maintenant comment est-ce qu'un travail, il n'est pas dit qu'un travail de 3 heures, tu ne peux pas le faire à 1h30. Tu peux t'arranger pour le faire, parce que c'est un travail, c'est un cahier de charge, voilà. Tu peux le faire très tôt, parce que toi, tu sais que tu n'es pas comme les autres qui sont là, les hommes ou les femmes qui ne sont pas mariées. Toi, tu as un fardeau qui t'attend, donc c'est à toi de t'organiser pour que vraiment mouler les chapelets de programmes que tu as dans la journée pour l'amener à un temps qui va te permettre d'avoir un autre temps de l'autre côté. D'accord. Donc, vous voyez bien que certains parmi ceux qui ont intervenu là, certains ont même lâché certaines pistes pour les femmes en lui donnant envie, effectivement, de récompense de paradis Al-Firdaus dont quelqu'un a parlé, effectivement. Et effectivement, ce que la femme fait, c'est exaucer, surtout pendant ce mois béni de Ramadan, elle cherche à donner l'affection, la joie à l'un comme à l'autre. Donc, c'est très important par rapport à ça.
D'accord. Madame Salamatou, quels sont les défis auxquels vous faites face pour y arriver?
Ok. Et vous savez,
s'il y en a, bien sûr.
Non, les défis là, bon, tu sais, ça ne manque pas, parce que des fois, le fait de se réveiller à l'aube là pour faire le réchauffer, il y a d'autres hommes qui n'aiment pas le réchauffer là, donc il faut que tu prépares un autre repas. Il faut que tu prépares un autre repas. Tu as le sommeil dans les yeux, donc c'est pour eux que tu n'es pas contente de le faire, donc tu es obligé de faire ça. Donc, vraiment, ça ne manque pas les défis. Ça ne manque pas. Parce que, toutefois que le mari a dit, bon, maintenant, aujourd'hui, je vais manger peut-être la pâte. Demain, peut-être, tu vas me préparer, une demi, quelque chose comme ça. Donc, tu as le sommeil dans les yeux, le fait de te réveiller hein, pour pouvoir aller dans la cuisine, commencer à préparer, ou bien le fait de faire et enseigner à ton mari, tu as fini. Donc, il faut tout ça là. C'est des choses que la femme doit vraiment comprendre, qu'il y a beaucoup de défis vivants.
Et comment est-ce que vous faites pour relever tous ces défis?
En tout cas, maintenant, c'est une question de compréhension. Si vous vous comprenez, il n'y a pas de problème. Si ton mari te comprend, tu le comprends. Ah, un tel, voilà, quand je te fais un signe, dès le premier signe, tu te réveilles. Donc, et puis je t'amène ton plat, ou bien je te fais ton petit café, quelque chose comme ça, ou bien ton petit verre de lait. Donc, tu sais, il y a d'autres personnes, quand tu les réveilles, quand tu commences à les réveiller, ou bien à faire signe qu'il est temps de se réveiller, et la personne, on dirait qu'elle ne se sent pas bien, que tu es en train de l'emmerder, tout ça là. Donc, les défis là ne manquent pas, vraiment.
D'accord.
Oui, oui.
Oustaz, qu'est-ce qui est recommandé aux femmes pendant ce mois plus exactement pour qu'elles puissent concilier la vie professionnelle et la vie de famille?
Oui, ce qui est recommandé aux femmes dans ces temps, effectivement,
pour qu'elles puissent gérer les deux, ne pas léser et la vie professionnelle et sa vie de foyer, avoir le juste milieu pour ne pas blesser qui que ce soit.
Oui, c'est ce que je dis. Il faut qu'elle soit programmative. Il faut que la femme soit programmative, c'est-à-dire elle programme le tout, parce que c'est un cahier de charge. L'important, c'est que il y a un hadith qui donne droit à ça.
Et n'oublions pas aussi qu'il y a la foi, il y a l'adoration qui doit aussi être à jour. Donc comment est-ce qu'elle arrive à, elle doit arriver à jumeler toutes ces choses?
C'est ça, effectivement. Elle devrait être forte, forte de caractère. Ce que je voulais dire, c'est que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète a dit: I'mal ladunya ka annaka ta'ishu abadan wa abudu rabbaka ka annaka tamutu ghadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: travaille pour ta vie, le travail quotidien, le travail pratique comme celui-là là, pendant des moments un peu difficiles, le travail où tu vas gagner, le travail où tu vas bénéficier d'une rémunération, le travail. En tout cas, il faut faire le travail de ce monde d'ici-bas, comme quelqu'un qui va vivre éternellement. C'est-à-dire, comme si tu vas vivre éternellement, tu ne connais que le travail, n'est-ce pas? Wa abudu rabbaka ka annaka tamutu ghadan. Et en même temps, dans les mêmes moments, il faut adorer ton Seigneur, n'est-ce pas? Respecter ta foi, comme si tu vas mourir demain. Tu sais, quelqu'un à qui on va dire que demain tu vas mourir, tu sais qu'il y a une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va beaucoup prier, beaucoup, beaucoup prier. Il va soigner la prière, il va soigner les gens, il va soigner les choses. Donc il faut effectivement ménager les dés gestes. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui a été en train de faire. Donc c'est comme ça qu'effectivement la femme devrait être. C'est-à-dire, elle devrait être. Quelqu'un qui joint les deux bouts sans pour autant enfreiner sur l'un ou l'autre de ce sont des responsabilités, on ne peut pas se soustraire. Donc si tu sais que ce sont des choses où tu ne peux pas te soustraire ni de l'un ni de l'autre, c'est de chercher à ménager les choses, à familiariser les choses pour que tu les fasses en même temps et bien. Donc la femme, elle devrait être programmée. C'est pourquoi je dis qu'elle devrait être programmée. C'est-à-dire, tout est question de programme. Moi, si je fais mon programme, je sais que dès que je me réveille, voilà les choses. Donc l'important, c'est que l'accord dont madame parlait avec le mari, c'est déjà acquis. Le mari, lui, l'important, c'est de voir son plat déjà prêt. N'est-ce pas? C'est de te voir au moment où il a besoin de te voir. Attends. Mais si il a ça là, maintenant les restes là, qu'il se fâche parce que tu l'as réveillé, parce qu'il trouve que tu l'embêtes, ça, ce sont des humains. Donc ça, on ne peut pas compter, tu ne peux pas être, on ne peut pas te comptabiliser ça. Donc ça n'a rien à voir avec effectivement ta mission vis-à-vis de lui. Donc tu as ta mission, tu as les bénéfices, tu as la rétribution de cette mission là, si tu l'as accompli comme il le faut. L'important, c'est d'être à temps, lui prendre l'engagement. Mon mari, moi je prends l'engagement que malgré mon travail parallèle qui est là, tu auras ton plat à temps plein, c'est-à-dire au temps voulu. Maintenant, arrange-toi pour que ça ne se refroidisse pas. Avec des bonnes paroles, quoi. Tu n'as pas besoin de l'embêter pour que n'est-ce pas? Je ne dis pas embêtement, mais forcé. Donc,
tu
devrais lui dire que vraiment, arrange-toi pour que ça ne se refroidisse pas. Lui, il sait que c'est une interpellation que tu lui fais. Donc, c'est comme si tu l'as déjà réveillé, quoi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à à cette question que vous venez de me poser.
Madame Salamatou Oustaz a parlé de gérer son temps. Bon, des fois, on peut remarquer que les femmes qui travaillent, leur temps ne leur appartient pas. Elles ont obligation de travailler des fois de 8h à 18h. En fait, tout dépend de l'employeur. Donc, par exemple, pour celles qui n'ont pas de dérogation de leur travail, comment est-ce que vous pensez qu'elles doivent gérer leur temps? Parce que c'est pas tous les employeurs, comme vous l'avez dit en début de l'émission, on vous a soulagé un peu des heures, vous finissez à 14h, je crois, maintenant. Et pour celles qui n'ont pas cet avantage, comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre?
En fait, madame, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Si tu t'organises, même le temps qu'on t'a donné, là, tu peux t'organiser. Tu peux faire un très grand effort.
Donnez-nous des exemples d'organisation, peut-être bon. Pour les... Nous, il y a des nouvellement venus dans les foyers.
Oui.
Donc, donnez-leur peut-être des exemples qu'elles peuvent utiliser. Qu'est-ce qu'elles
Elles peuvent utiliser le très tôt le matin quand elles se réveillent avant d'aller au service. Elles peuvent faire d'autres tâches avant de quitter la maison. Quand tu te réveilles à l'aube, là, tu as fait le plat à ton mari, tu t'es préparé. Donc, les petits gestes, les petits ménages qui te restent là, tu peux les faire avant de quitter ta maison. Tu peux les faire, en fait, surtout si tu n'as pas de bon ou bien si tu n'as pas quelqu'un qui devrait t'aider. Donc, avant de quitter ta maison, tu devrais balayer ta chambre, tu devrais laver la vaisselle, tout ça là, tu peux faire ça avant de quitter. À ton retour, même si c'est... Il y a d'autres qui peuvent faire même des choses, des sauces, avant même de quitter. Il y a des femmes qui préparent des sauces, il y a des femmes qui font leur petit jus avant de quitter leur maison pour aller au service. Donc, à ton retour, tu sais que les tests que tu restes là, c'est pas beaucoup. Tu peux t'en sortir avec le reste que tu as trouvé à la maison. Donc, pour moi, il ne faut pas être fainéante. Parce que si tu es fainéante, vraiment, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, il faut vraiment, quand tu te réveilles très tôt le matin, là, tu peux faire beaucoup de choses avant de quitter ta maison pour aller au service.
Je vous propose maintenant d'écouter notre portrait du jour. Il s'agit de Madame Sahabi Saratou, une femme fonctionnaire.
Mariée et mère de 4 enfants, Madame Sahabi Saratou est fonctionnaire à la Direction régionale de l'éducation nationale d'Agadez et occupe le poste de responsable chargé de la scolarisation des filles. Madame Sahabi Saratou est une femme de terrain.
J'occupe le poste de chargée de la scolarisation des filles depuis 2016. Je travaille sur deux volets. Tantôt nous sommes au bureau, tantôt nous sommes sur le terrain. Donc on peut être dans des missions, être sur le terrain, dans les écoles, dans les villages, dans les campements. C'est vrai, c'est pas facile dans ce mois de Ramadan, mais c'est une question d'organisation. Et on est habitué, il faut savoir comment s'organiser. Donc en amont, on travaille donc de 8h à 16h30 pendant ce mois de Ramadan.
Organisée, elle arrive à joindre le debout, son travail et la charge ménagère de sa famille dans ce mois béni de Ramadan.
Mais on arrive à conjuguer les deux, vraiment pour que non seulement on respecte les heures de travail, et qu'on fasse en sorte que nos habitudes de travail ne changent pas, et qu'à la maison aussi, nos maris et nos enfants se sentent à l'aise. Le matin, de bonne heure, donc je m'occupe de quelques tâches. Depuis 5h, 6h, donc j'essaye d'arranger les quelques trucs qui peuvent être préparés bien avant. Donc je viens au service. À la descente, on retourne avec l'aide des enfants. On arrive à s'en sortir. Et on fait en sorte qu'avant la rupture, tout soit prêt. En tout cas, c'est un devoir pour une femme. Même si elle travaille, quel qu'en soit le travail qu'elle fait, de mettre sa famille à l'aise. Et surtout pendant ce mois de Ramadan, c'est un mois bénéfique.
Madame Sahabi Saratou est une femme battante et assidue dans son travail, témoigne son supérieur hiérarchique, Omar Hassan, directeur régional de l'éducation nationale d'Agadez.
Hachia Sara, en tout cas, avant même que je ne sois à la direction, je l'ai connue, en tout cas, étant déjà à la direction de la promotion de la scolarisation des filles, comme étant confocale régionale SCOFI. Je peux dire que Hachia, c'est une femme battante, c'est une dynamique. Surtout en ce qui concerne la promotion de la scolarisation des filles. C'est une femme, c'est vrai, il y a le foyer, mais elle a toujours su joindre quand même le travail et parce qu'elle est assidue, très assidue au travail. Vous lui demandez un travail, en tout cas, c'est tout de suite aussi. Et vraiment, Dieu merci, elle apporte beaucoup, beaucoup, je vais dire, son édifice, en tout cas pour ce qui est de la bonne marche de la direction régionale. En tout cas, c'est une des divisions quand même qui marche très bien. Et ça, c'est grâce à son dynamisme.
L'éducation des filles est devenue une priorité et un combat qu'elle mène au quotidien. Madame Sahabi Saratou, dans la région d'Agadez, ce qui lui a valu une haute considération dans son travail.
Madame Salamat, quelles sont vos appréciations par rapport à ce qu'on vient d'écouter, le témoignage sur Madame Sahabi Saratou?
Oh, ça, c'est très bien. C'est une femme patente. Hein. Comment elle arrive à gérer son foyer comme elle le veut. C'est une femme battante. Moi, je l'apprécie beaucoup. Et je lui dis bon vent, bon courage aussi. Et je souhaite aussi que les autres femmes fassent comme elle. Comment elle se décarcasse pour pouvoir sauver son foyer. Donc, vraiment, c'est une très bonne chose. Vraiment, je l'encourage.
Et vous, Oustaz?
Sans le savoir, peut-être, en temps même de s'acquitter d'un hadith du professeur Lassalam, c'est un ordre que le professeur Lassalam nous a dit. Il dit Nahan qawm la nu'ajjilu 'amal al-yawm lil-ghadi. Nous, nous sommes des gens, nous sommes des personnes qui devraient être ou qui devraient avoir cette carrure de ne pas retarder le travail de maintenant là, à tout à l'heure.
De ne pas d'aujourd'hui procrastiner. Là,
justement, ça veut dire que les musulmans devraient être comme ça. Tu vois, elle le fait peut-être sans même connaître ces hadiths, alors que c'est un hadith qu'on devrait respecter. Donc, vous voyez, c'est à la place d'organisation, moi, j'allais dire que c'est une question de planification. Il faut faire une bonne planification. Par exemple, si je prépare ma sauce, je ne suis pas une femme, mais si je me place à la place de la femme. Si je prépare ma sauce avant de quitter la maison, après les sahours et tout, mais quand je reviens, c'est juste le réchauffement. C'est la même chose que quand je viens de le faire, par exemple, à partir de 16h ou 17h. N'est-ce pas? Je peux le poser et qu'avant avant le coucher du soleil, là, il aura besoin, ce plat-là aura besoin d'être un peu réchauffé. Mais si vous le faites et que vous le déposez, vous avez déjà une garantie. Maintenant, vous ne pouvez pas savoir le temps que le travail du bureau va vous prendre. Soit, de toute façon, ce côté-là, vous avez une certaine accalmie, vous avez une certaine tranquillité parce que vous savez que votre sauce, vos jus, comme elle a dit, sont prêts. Donc, il suffit juste de les chauffer, ça même assis ton réchaud à côté là, tu peux le chauffer et tout le monde va être satisfait et ton mari va même te poser la question, mais depuis quand tu as fait tout ce travail?
Oui, mais elle a dit qu'il y a des hommes qui n'aiment pas du réchauffé. Nous sommes pendant le mois de Ramadan, l'organisme est fatigué, la femme, elle a travaillé toute la journée, elle est rentrée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes qui disent qu'eux, ils n'acceptent pas du réchauffé sur la table?
L'engagement entre un mari et sa femme, c'est de lui servir un bon plat. Maintenant, comment elle va faire? Quelle voie elle va prendre? C'est pas à lui de dicter ça. La femme, de ce point de vue, là, l'islam, tu as donné toute l'attitude. Toi, le mari, c'est le plat que tu veux. Peu importe les choses. Tout à l'heure, elle a parlé d'un autre défaut des autres hommes. C'est-à-dire, tu les réveilles pour qu'effectivement ça ne se refroidit pas. Tu te dis que non, vraiment, toi, je suis debout, je suis déjà éveillé. Tu me laisses, tu vois. Jusqu'à ce que même ça se refroidit. Vous savez, madame, les humeurs des gens, on ne peut pas choisir. Mais l'important c'est qu'elle s'acquitte de son chose. C'est un plat que je devrais te faire, je vais le faire. Maintenant, c'est pas un plat qui a passé une nuit pour qu'il proteste. Oui, ça c'est pas des Dungandi comme on dit en germain, c'est-à-dire les azafés là, non. Ça c'est pas ça. C'est peut-être ça qu'il peut reprocher. On lui fait le Dungandi à la place de manger qu'il devrait manger depuis hier nuit. C'est ça, le prophète a dit que nous sommes des gens qui ne retardent pas le travail d'aujourd'hui à demain ou comme ça. Donc, de ce point de vue, l'homme ne devrait pas être aussi exigeant que ça. En tout cas, si c'est fils et bille là, à cause d'Allah, et c'est pour effectivement manifester ce que notre foi nous a recommandé, c'est-à-dire de vivre dans l'ambiance, vraiment dans la joie, dans la convivialité entre toi et ta femme. Si c'est pour ça, je crois qu'il devrait l'encourager.
Juste une petite parenthèse, Oustaz, le Dungandi, là, il est plus excellent que le plat directement servi.
Donc, voilà. Ça, donc, c'est mon avis. Vous êtes le spécialiste de la cuisine, de la marmite.
D'accord. Madame Salamatou, quelles sont vos appréciations? par rapport à tout ce que Oustaz vient de nous dire.
Voilà, Oustaz a tout dit. Vous voyez, donc mes appréciations vont vers surtout ces femmes dynamiques-là. Les femmes-là qui se réveillent, qui se battent pour
ça, c'est un appel que vous leur lancez, vos recommandations, oui.
Voilà, je leur lance un appel. Et vraiment, je les encourage, je les félicite aussi pour que ces femmes-là soient toujours des femmes battantes à côté de leur mari. Vraiment à côté de leur mari. Parce qu'il faut que cette femme-là, que l'homme doit considérer, que l'homme doit toujours aimer, vraiment qu'elle soit à ses côtés.
D'accord. C'est votre dernier mot pour le débat?
C'est mon dernier mot, c'est que je félicite vraiment mes chères sœurs, vraiment qui travaillent jour et nuit pour la satisfaction de leur foyer, pour avoir la bénédiction. Vraiment, bon courage.
D'accord. Merci au nom de toutes les femmes. Et Oustaz, quel est votre dernier mot pour ce débat? Quel appel, recommandation avez-vous à faire à l'égard des hommes et des femmes pour qu'elles puissent concilier travail, famille pendant ce mois béni de Ramadan?
Ce que je peux conseiller, c'est qu'il faut savoir que nous sommes venus au monde pour ça. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'autre. Est-ce qu'on a un autre choix? On ne peut pas échapper à ces genres de choses. Et la chose que tu sais, que tu ne peux pas échapper à ça, là. Le mieux, c'était de t'organiser. Je reviens sur ce mot, organisation, pour planifier tout et t'acquitter de ça, là. Parce que tu ne peux pas te soustraire. Alors, quoi faire? C'est de bien le faire et le faire dans le silence, dans la patience. Pas dans le. Dans les choses où, en boudant, on dit qu'en faisant des fuites et autres brimades. Non, tu les fais vraiment dans le calme parce que, de toute façon, tu n'as pas un autre choix. Tu n'as pas un autre choix. Ou ce sont des engagements, tu es là pour ça. Toi-même, si tu ne fais pas ça chez ton mari, imagine une femme à qui le mari ne donne pas un plat pour lui préparer. Toi, tu peux accepter que moi, je te donne rien pour préparer. Mais il faut que je te mobilise de ce point de vue-là. Tu devrais même me demander où sont mes fouignes. Mais imaginez que moi, je n'aimais même pas ça à sa chose. Et je te parle même pas de ça. Là. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Non. Oui, je crois que la femme devrait être fière de faire ça. Parce qu'on l'a mis, effectivement, dans son droit. On l'a
et à l'égard de Marie.
À l'égard de Marie, justement. Bien, à l'égard de Marie, c'est qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'engagement qu'on a pris, alors même qu'on est des jeunes, on ne sait même pas courtoyer, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas encore habité un même endroit. Il faut que ça continue. Parce que c'est comme ce que ce verset-là a dit. Allah a dit que j'ai mis entre vous les liens de tendresse et d'amour, de pitié. C'est-à-dire ce que d'autres langues disent pour les meilleurs et pour les pires. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il devrait. Il faut tout faire pour grandir ta femme, pour la supporter, n'est-ce pas? Pour l'aider dans cette fumée de cuisine, dans cette chaleur de torride, alors qu'elle se bat pour te servir. Il faut l'appuyer, il faut la soulager, il faut lui donner une certaine affection. Ça, des deux côtés, et l'homme et la femme, on est condamné, c'est-à-dire on est né pour ça. Et c'est ça qui fait la valeur des hommes mariés, au lieu qu'on soit partagé à cœur des choses là, l'autre est par là, l'autre est par là. Non, on est unis pour ça. On est effectivement pour ça. Et si l'un ne fait pas son rôle, eh bien, il va voir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle aussi, c'est ça qu'elle veut mettre dans sa tête-là. Si je manque, alors que mon mari a tout mis à ma disposition là, je devrais craindre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas la colère de ton mari.
Oui, d'accord. En résumé, dans ce forum, il n'est pas sorcier de concilier vie de travail et vie de famille. Selon nos invités, il suffit juste de programmer, de faire une programmation de son temps, d'arriver à gérer son temps pour pouvoir être à jour, être dans les temps de la préparation de l'iftar. Aussi, selon les invités, les conjoints aussi doivent s'y mettre, doivent aider un peu leurs épouses dans les travaux ménagers pour une vie, une cohabitation en symbiose. Voilà, ici se termine ce forum. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci aussi à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Il s'agit de Salamatou Meidaji et de Oustaz Ahamadou Mustapha, prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger. Rendez-vous mardi prochain pour un thème espace femme. Mais avant de nous quitter, je vous propose d'abord de suivre notre rubrique Loti, qui va nous parler aujourd'hui des femmes qui ne paient pas leurs dettes. Et dans ce mois de Ramadan, il faudra vraiment s'acquitter de ces dettes. Bonne réception.
Affairage, 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 affairage.
Pousse-toi, pousse-toi, je vais tomber sur toi.
Bismillahirrahmanirrahim. Atou, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête-toi, faut pas tomber sur moi. Regarde, tu as versé ma bouillie, j'ai même eu du sucre et du lait.
Hey, ferme la porte, pardon, fais vite, ferme la porte.
Toi, ce sont des voleurs ou des braqueurs qui t'ont poursuivi.
Si seulement c'était des voleurs ou des braqueurs de dame, c'est Hajji Habiba.
Quelle Hajji Habiba? La commerçante?
Elle-même.
Hajji Habiba, t'as chassé comment? La dame là qui arrive à peine à marcher?
Si seulement elle m'a chassé. Elle ne m'a pas chassé justement. Je l'ai aperçue au bout du couloir et j'ai couru. Parce qu'aujourd'hui là, je suis sûre que c'est le commissariat seulement qui va nous séparer.
Subhanallah, le commissariat. Qu'est-ce que tu lui as fait?
Tu te souviens des draps et tasses qu'on a achetés chez elle, non, il y a 6 mois?
Ne me dis pas que tu n'as toujours pas payé.
Et toi? Et tu sais comment les temps sont durs maintenant? Mon petit commerce ne marche plus depuis.
Hi Atou, quels les temps sont durs? 6 mois, à sa place, je t'aurais convoqué depuis longtemps.
Yeah. Son argent, c'est 30 000 bon. Et malgré tout, je me suis débrouillée pour payer jusqu'à 10 000 francs. Et puis, comme ça fait 6 mois là, je pensais qu'elle allait pardonner. Mais chaque mois, elle vient me faire la misère devant tout le monde. Je lui ai dit que je n'ai pas l'argent. Elle doit comprendre, Darmana.
Ah, tu savais que tu n'as pas d'argent et tu as pris ses affaires d'une valeur de 30 000. Et tu veux qu'elle te pardonne. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle les a ramassés au coin de la rue?
Wallahi Souheba, je comptais sur mon frère qui est à Niamey. Mais ça fait 2 mois, je l'appelle, il ne décroche plus mes appels. Et puis mon mari refuse de payer parce que je n'ai pas demandé son avis avant de m'endetter. Je ne sais plus quoi faire.
Toi-même, tu n'as pas réfléchi, hein? Tu n'as pas de boulot, tu n'as aucun revenu et tu pars t'endetter. Oui, en comptant sur quelqu'un d'autre pour payer ta dette. On peut faire ça.
Hey, c'est parce que j'ai vu tout le monde a pris. Donc moi aussi j'ai pris. C'est juste pour ne pas avoir honte parmi vous toutes.
Toi maintenant tu as honte devant tout le monde. Dès au début il ne fallait pas prendre sachant pertinemment que tu n'as aucune garantie. Si tu ne voulais pas te taper la honte devant tout le monde, fallait même pas te lancer. Regarde-toi un peu en train de courir partout essayant de te cacher de tes créanciers. Quel exemple tu veux laisser pour tes enfants? Et si elles venaient te surprendre avec la police, comment tu vas faire? Même ton nom sera gâté dans les quartiers et personne ne voudra plus que tu l'approches. C'est ce que tu veux, non?
Police, wallahi, je ne veux pas de tout ça. Comment faire pour éviter tout cela?
Va lui remettre ses affaires. Essaye de lui expliquer ta situation calmement. Excuse-toi et ne refais plus jamais ça. Parce que 6 mois là, c'est beaucoup de... Peut-être qu'elle aura un peu pitié de toi. J'espère que tu ne les as pas utilisés.
Toi, je ne les ai pas encore touchés depuis, mais après 6 mois, est-ce que... Accompagne-moi, comme elle te respecte là. Peut-être qu'elle va écouter et passer l'éponge.